radio. Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment planifier une nouvelle année en tant qu'entrepreneur? C'est notre thème de ce magazine du jour. On en parle dans les minutes qui suivent avec le coach Gabriel Lomengo. Il est coach en entrepreneuriat et il est le coordonnateur du réseau des coachs professionnels en entrepreneuriat du Congo RECOPEC. Et représentant pays de la FAC, la Fédération Africaine de Coaching. Coach Gabriel Lomengo, bonjour et bonne année.
Bonne année, monsieur Jody Kachama. Merci pour l'invitation.
Bienvenue dans cette émission. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à la planification de vos activités annuelles? Composez déjà le 089 55 98 337. Écrivez-nous également à service@radioocapi.net. Lancement d'une nouvelle plaque d'immatriculation en République démocratique du Congo, ce sera notre deuxième sujet du jour. On en parle avec Chief Chipamba Ngambamalu, coordonnateur national de l'Union pour la défense des droits des consommateurs, UDECOM. Des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Composez les 089 55 98 337. Dieudonné Nyangassa assure la mise en onde grâce à Vuezolo. Coordonne et réalise cette émission au micro Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radioocapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radioocapi.net, la radio en différé à votre service.
Encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien. Nous parlons aujourd'hui de la planification de vos activités annuelles. Vous savez, la planification annuel est une étape cruciale pour tout entrepreneur. C'est bien plus qu'un simple exercice de calendrier. C'est un investissement dans le succès futur, selon les experts. Au-delà d'une simple formalité, la planification au début d'une année permet à l'entrepreneur de se fixer des objectifs, d'identifier les opportunités d'affaires à saisir, ainsi que les obstacles à surmonter. Ensemble avec son équipe, ils adoptent des stratégies pour gagner plus de marché, augmenter les ventes, gagner en clientèle, réaliser un grand chiffre d'affaires. Alors c'est le moment de façonner votre trajectoire pour naviguer avec succès à travers les défis qui vont se présenter au cours de l'année. Alors comment s'y prendre pour bien élaborer, pour bien planifier vos activités en tant qu'entrepreneur au cours de cet exercice de 2026, si on peut le dire ainsi. Eh bien, notre invité nous en dira davantage. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui le coach Gabriel Lomengo, qui est le coordonnateur du réseau des coachs professionnels en entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Alors, coach Lomengo, dites-nous, pourquoi est-il important de planifier les activités en tant qu'entrepreneur bien au début de l'année, comme on est encore au début de l'année 2026?
Oui, monsieur Jody, merci pour l'invitation et merci pour la parole. La planification est très capitale, n'est-ce pas, dans la gestion de l'entreprise. Mais ce que je voudrais dire bien avant est que la planification ne commence pas seulement, ne se fait pas seulement pour le début ou la fin de l'année. C'est-à-dire la planification accompagne l'entrepreneur tout au long de son projet d'entreprise. D'abord dans ce qu'il avait. Quand on dit entrepreneur, il y a l'entrepreneur en idéation. Quand il a eu l'idée d'abord de créer, oui. Il a planifié. Parce qu'on dit, planifier, c'est réfléchir avant d'agir.
Ok.
C'est ça l'importance de la planification. Ça nous aide à réfléchir. Maintenant, cette réflexion ne se fait pas seulement au moment où l'entrepreneur est devenu opérationnel. Ça doit se faire au moment où l'entrepreneur a l'idée de créer l'entreprise, l'idée de répondre à un besoin, l'idée de donner des solutions à un problème dans la communauté, sur le marché. Mmh. Ça doit être clair. Donc ça ne commence pas seulement, ça doit être un exercice qui doit être au quotidien, un exercice qui se fait souvent,
oui.
N'est-ce pas, qui doit commencer dans la phase d'idéation. Et maintenant, quand l'entrepreneur est dans la phase de lancement ou création de l'entreprise et de développement de son entreprise, c'est cet entrepreneur dont nous parlons. Mais ça commence bien avant.
Est-ce que ça passe par le plan d'affaires ou pas?
Oui, il y a des documents qu'il faut avoir. Très bien. Vous avez raison. Il y a des documents. Il y a trois documents qu'un entrepreneur doit avoir.
Lesquels?
D'abord, il faut avoir le plan d'affaires. N'est-ce pas?
Oui.
Et après le plan d'affaires, nous voyons le manuel des procédures. C'est très important, alors que les entrepreneurs oublient le manuel des procédures. Et surtout, nous, en tant qu'experts dans l'écosystème, nous voyons quand on demande les concours sur le plan, et on appelle ça concours sur le plan d'affaires. Bon, ça, c'est un débat d'école. Un jour, je suis aussi chercheur là-dessus, parce qu'il y a le manuel des procédures que nous ne demandons pas.
Aux
entrepreneurs, parce que normalement un entrepreneur doit avoir le manuel de procédure. Donc les plans d'affaires, le manuel de procédure, et il y a le troisième document qu'on appelle la charte de qualité.
Charte de qualité.
Très bien, ce sont ces trois documents-là qu'il faudrait d'abord, avant de planifier, avoir ces documents-là. Donc nous parlons d'un entrepreneur qui a une entreprise, qui a le RCCM, qui a une équipe, et une équipe performante des compétences, et qui a ces trois documents. Il a d'abord le plan d'affaires. Et le plan d'affaires, c'est quoi? C'est un document stratégique qui explique les projets d'entreprise. Ce que vous voulez faire, pourquoi, comment, avec quels moyens et avec quels résultats attendus. Ça, c'est le plan d'affaires. Donc, vous ne pouvez pas créer une entreprise, vous ne pouvez pas vous appeler entrepreneur sans pour autant avoir le plan d'affaires. Le plan d'affaires, parce que c'est le plan d'affaires qui dit ce que vous voulez faire, comment vous allez faire et comment vous allez gagner cet argent. Ça, c'est très important. C'est sur base de ça que vous allez évaluer à la fin de l'année, de l'exercice comptable, vous allez faire une évaluation et au début de l'année, vous allez maintenant planifier. Vous allez planifier sur quoi? Sur ce que vous avez mis comme des objectifs sur le plan d'affaires.
Oui.
Alors, le deuxième document qui est très important, nous appelons ça le manuel des procédures.
Oui.
Le manuel des procédures, c'est...
À quoi ça sert?
C'est un document opérationnel. Mmh. Je souligne bien. C'est un document opérationnel qui explique comment le travail doit être fait au quotidien dans l'entreprise. Les plans d'affaires donnent d'une manière générale ce que vous allez faire, comment vous allez gagner. Maintenant, le manuel des procédures sur... C'est un document opérationnel. Et il est surtout utilisé pendant le fonctionnement de la procédure. À quoi sert-il? Standardiser les travaux, éviter les erreurs et l'improvisation, faciliter la formation du personnel, assurer la continuité même en l'absence du dirigeant. Ça, c'est le manuel du procédure. C'est très important. Et les entrepreneurs, souvent, ce que nous accompagnent, ils ne maîtrisent pas ça. Ils ne savent même pas que ça existe. Même nous, les structures d'accompagnement.
Oui.
Quand nous faisons des concours sur le plan d'affaires, nous ne demandons pas les manuels
de procédure. On ne parle pas de ça.
Moi, j'ai suivi une formation sur suivi évaluation. C'est là où on nous a parlé de ça. Et c'est très important, ces documents-là. Comment vous allez gérer l'entreprise au quotidien?
Donc, tout entrepreneur sérieux doit avoir ces trois documents.
Oui, le troisième, c'est la charte de qualité. Qu'est-ce que la charte de qualité? On dit la charte de qualité est un document d'engagement qui définit les standards de qualité et les valeurs que l'entreprise promet de respecter vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires. Elle concerne l'image, la crédibilité et la satisfaction client. À quoi sert-elle? Montrer le sérieux de l'entreprise, définir les engagements envers les clients, améliorer la confiance et la fidélité, guider les comportements du personnel. Donc la charte de qualité, c'est un engagement que vous prenez. Et comment vous prenez cet engagement? Parce que quand je crée une entreprise pour répondre à un besoin.
Oui.
C'est un contrat que j'ai avec la clientèle, avec la société, avec l'État. Raison pour laquelle quand une entreprise ne fonctionne pas très bien, l'État peut venir vous fermer. On peut dire vous fermer parce que vous n'arrivez pas à vos obligations. Et ces documents, c'est très important. Donc, le point de départ, monsieur Jody Kachama, c'est avoir ces documents.
Oui.
Et
là, c'est dès la création de
votre entreprise. Dès la création.
Oui.
Parce que c'est ce qui va vous aider à être opérationnel sur le terrain.
Mmh.
Maintenant, pourquoi planifier une année? Et qu'est-ce que nous attendons par la planification? Ça, c'est très important.
Voilà, on commence par là.
Oui, la planification. Qu'est-ce que nous attendons par la planification? La planification est le processus sur lequel, par lequel une personne, une organisation décide à l'avance ce qu'elle veut atteindre et comment elle va s'y prendre pour y arriver dans un délai donné avec les ressources disponibles. Planifier, c'est réfléchir avant d'agir. Ce que moi, je veux faire, comment je veux le faire? Mais j'ai trois documents qui disent ce que je veux faire et comment je veux faire. Vous voyez, il y a une suite logique.
Oui.
Donc, les trois documents là, maintenant, je parle de la planification. Mais ça, c'est d'une manière générale. Maintenant, en management ou en entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on attend par la planification? Mais selon le management, la planification consiste à fixer des objectifs clairs, déterminer des actions à mener, prévoir les ressources nécessaires, temps, argent, personnes, matériel, établir les calendriers, anticiper les risques et les contraintes. Ça, c'est, il faut comprendre, c'est ça la planification. Maintenant, il faut planifier une année. Pourquoi planifier une année? On planifie une année. La planification annuelle permet à l'entrepreneur de clarifier sa vision et ses priorités. N'est-ce pas?
Mmh.
C'est traduire des objectifs à long terme en actions concrètes. On planifie l'année pour anticiper le risque et des opportunités. On planifie l'année pour aligner les ressources, temps, argent, équipe, mesurer les progrès via des indicateurs qu'on appelle les KPI, les indicateurs de performance.
Oui.
C'est très important. Maintenant, quand j'ai tout ça, maintenant il y a des étapes clés dans la planification. Les étapes clés. Dans la planification. La première étape, c'est faire le bilan de l'année écoulée. Ça, c'est la première
étape. Tout commence par
oui.
Voilà, le bilan.
Le bilan.
Mmh.
Le bilan de l'année. Il s'agit d'une étape essentielle pour tirer des leçons. Qu'est-ce qui est bien fonctionné? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Analyse des chiffres d'affaires, des clients, des produits ou services dépensés. Identification de vos forces et de vos faiblesses. N'est-ce pas?
Mm-hmm.
Je suis en train de faire le bilan et je prends mon plan d'affaires pour voir qu'est-ce qui a été prévu. Parce que normalement, les plans d'affaires, c'est pour 3 ans. Il y a des gens qui vont même 5 ans, mais aujourd'hui, c'est pour 3 ans.
3 ans.
Oui, première année, qu'est-ce que je fais? Quel est mon chiffre d'affaires? J'avais combien
pour faire la comptabilité.
Oui, la comptabilité. Je veux parler de ces documents parce qu'il y a des documents que nous parlons d'un entrepreneur qui a une entreprise, c'est joli.
Mm-hmm.
Nous parlons d'un entrepreneur qui a une entreprise. Donc vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise.
Une entreprise.
Et vous avez une équipe.
Oui, coach, en passant, je peux lire rapidement la réaction de Monsieur Roger Maté, qui est le coordonnateur provincial du programme pour l'emploi des jeunes au Nord Kivu.
Mmh.
Il est en train de vous suivre. Il dit ceci, il a remarqué que bon nombre d'entrepreneurs ne tiennent pas une comptabilité à la fin de l'année. Ils ne savent pas évaluer l'impact, comment est-ce qu'il a pu fonctionner durant toute l'année, parce que ils ne font pas des contrôles internes, externes, même au sein de leur entreprise, en tant que ils n'ont pas des outils de bonne gestion. Alors, ils recommandent à tous les entrepreneurs de se faire accompagner par une structure d'accompagnement, tout ça, et ça va leur permettre d'évaluer, renforcer les capacités du personnel, faire le contrôle à partir de la comptabilité, l'étude du marché, le nombre d'emplois créés, la protection de l'environnement, etc. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, très bien. Très bien, c'est une très bonne idée. Les entrepreneurs doivent être accompagnés. Maintenant, ici, nous parlons d'un entrepreneur qui a une entreprise et qui a une équipe. Et dans son équipe, il y a un responsable de la comptabilité. Quelqu'un qui maîtrise la comptabilité. Raison pour laquelle une entreprise n'est pas une île isolée où vous travaillez à solo. Nous devons éviter ça, parce qu'on a une tendance chez nous de vouloir travailler seul. Quand on dit entrepreneur, on dit entreprise. Quand on dit entreprise, on dit une équipe. Et vous ne pouvez pas travailler seul. Vous devez normalement travailler en équipe. Maintenant, c'est là où le problème vient. Qui fait partie de votre équipe? Comment vous avez recruté ces gens-là? On recrute selon les compétences. Et quand nous parlons de compétences, on voit les savoir, les savoir-faire et les savoir-être. Mais souvent chez nous, on recrute parce qu'il est licencié en, parce qu'il a un diplôme. Mais est-ce qu'il a les savoir-faire? Parce que les diplômes, oui, il a étudié, il a les savoirs. Mais les savoir-faire, raison pour laquelle dans d'autres cieux, on a créé le stage. Le stage, ça donne la possibilité à l'employé de tester sa connaissance, de tester ses compétences.
Coach Lomengo, nous avons 4 auditeurs en ligne. Vous permettez qu'on les prenne?
Oui, oui.
Et comme ça, vous allez répondre à leurs préoccupations.
Très bien.
Maître Charles Bamouswana, vous êtes à Ituri. Maître Claude Niembo à Kinshasa. Christian Kassessé est aussi à Kin, ainsi que Maître Gaston Ngandou. Maître Charles Bamouswana de l'Ituri, bonjour et quelle est votre question?
Bonjour Monsieur Jody, bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs et auditrices de la radio Capi.
On vous écoute.
Merci pour la parole accordée. Monsieur Jody, je viens d'être choqué par les explications fournies par notre invité. Pourquoi?
Oui, pourquoi?
Parce que dans nos milieux, il semble que tout le monde qui crée une petite activité s'appelle des jeunes entrepreneurs. Or, ce qui vient de dire l'invité, c'est purement au contraire. Or, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui possède une entreprise. Alors, ma question, pour ne pas du tout consommer du temps, permettez, monsieur l'invité, comment mettre en place un suivi dans un projet en tant qu'un entrepreneur? Et ma deuxième question, comment revoir la vision à la fin de l'année ou projeter une vision au début de l'année en tant qu'un entrepreneur? Merci, je laisse la place aux autres.
Merci. Maître Claude Niembo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour Jody, bonjour à l'invité. J'avais deux petites questions à poser à l'invité. Est-ce que le système fiscal congolais tel qu'organisé permet-il aux entrepreneurs d'émerger? Ma deuxième question est de savoir d'où vient l'idée selon laquelle le Congolais doit travailler seul? Parce que lorsque vous comparez même le genre de l'Afrique de l'Ouest, le Ouest africain aussi, vous conviendrez avec moi que ce genre travaille plus en groupe, mais ici chez nous, les gens veulent travailler en solo. Bon, nous demandons à l'invité, est-ce qu'il y a une idée qui vient de quelque part pendant qu'il est au Congolais pour qu'il puisse travailler en solo? Ou c'est, on ne sait pas d'où vient cette idée. Voilà.
Merci beaucoup, Maître Claude. Oui, une autre question?
C'est la seule question, les deux seules questions qu'on avait.
D'accord, merci. Christian Kassessé, vous êtes à Kin, bonjour. Christian Kassessé, bonjour. Merci d'activer votre micro, d'ouvrir le micro, Christian Kassessé. Nous parlons de la planification annuelle pour un entrepreneur. Voilà comment planifier ses activités au cours d'une année, comme l'année 2026 qui vient de commencer. Christian Kassessé, vous avez ouvert, merci d'ouvrir votre micro. Vous êtes là? Bon, je passe à Maître Gaston Ngandou de Kinshasa. Il est aussi à Kin. Merci d'ouvrir le micro, Maître Gaston. Bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Bon, je pense, excusez-moi, je pense, nous sommes en train de parler des entrepreneurs, hein, dans le sens commercial du terme, parce qu'on peut entreprendre aussi dans le sens des structures à non lucratif, quoi.
L'entrepreneuriat social.
Ouais, les trucs comme ça. Mais ici, on est plus dans le sens des structures commerciales, entre autres, pas entre autres, en soi, mais les sociétés, mais aussi les établissements commerciaux, établissements comme on l'appelle.
Oui, quelles sont vos questions?
L'établissement, vous savez, dans notre pays, on peut créer sa propre structure, hein, un établissement, on est seul, on évolue. Mais dans tout ça, il faut toujours planifier. Donc c'est pour cela que je voulais un peu demander à l'invité, est-ce qu'on peut planifier en dehors du bilan, parce que toute structure là, c'est même une obligation légale, doit avoir un bilan initial, mais aussi annuel, disons final, comme on demande, il y a des documents comptables qu'il faut tenir, entre autres les bilans, il y a aussi ce qu'on appelle les bilans des résultats, si je peux le dire ainsi, les bilans des résultats, qu'il faut aussi brandir d'autres états financiers, comme on dit, les états financiers. Alors, est-ce qu'il faut travailler en dehors de ces documents-là, soit il faut, quand vous parlez de planifiant, il faut voir d'autres aspects. Parce que toute structure doit avoir un bilan initial et puis à la fin de l'année, évaluer aussi ce qui a été fait ou qui n'a pas été fait, pourquoi, pour préparer les bilans de l'année antérieure.
Et puis, d'accord.
Deuxièmement, moi je vois comme si, apparemment, on n'a pas vraiment des entrepreneurs dans le vrai sens du terme, parce qu'on voit les gens exercer des activités commerciales par-ci par-là. Donc, vous ne passerez aucune parcelle ici.
Sans trouver une activité commerciale.
Voilà. Donc, tout le monde investit dans ce domaine-là.
Là, c'est peut-être dans le cadre de la subsistance. Hein, c'est des activités que les gens font pour leur propre subsistance.
Je vais éclairer ça. Hein.
D'accord. Un instant. On va accueillir Christian. Oui, allez-y rapidement avec la question et puis on va donner la parole à Christian.
Voilà. Pourquoi ne pas aussi donner un petit conseil à ces gens-là? Il y a quelque chose à dire aussi par rapport à ces entrepreneurs-là. Moi, je les appelle comme ça, que ce soit ce que l'invité va dire. S'il a un mot à dire par rapport à comment ils peuvent arriver à appliquer ces principes.
D'accord.
De planification, des trucs comme ça.
Merci beaucoup, Maître Gaston.
Évaluer les activités. Merci.
D'accord. Christian Cassé, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Quelle est votre question? Allô, Christian? Christian Cassé, vous êtes là? Votre micro n'est pas toujours allumé, Christian. Désolé.
Non, c'est allumé.
Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous écoute.
Voilà, je voulais d'abord qu'on place les débats parce que lorsqu'on se retrouve dans l'hypothèse d'un entrepreneur qui gère une entreprise, c'est-à-dire qu'il peut aussi être une société commerciale, dans ce cas-là, les problèmes de la planification ne se posent pas. Pourquoi? Parce que la société est structurée. Vous avez les organes d'orientation, c'est-à-dire le conseil d'administration. Vous avez les organes de gestion, c'est-à-dire que vous pouvez trouver les directeurs généraux ou les gérants. Vous avez aussi les organes de contrôle, ça veut dire les collèges, les commissaires. Et donc, dans ces cas-là, chacun de ces organes-là pourvoit à sa mission. Et vous le comprendrez que le conseil d'administration peut donner les orientations annuel sur les précédents de l'année écoulée, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il y a le collège, le commissaire aussi qui doit exactement contrôler et le contrôle financier. Donc à ce moment-là, on doit savoir les ressources financières qui existent, savoir les objectifs qu'on veut atteindre, mais également aussi les ressources humaines auxquelles il faut faire recours pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Donc dans cette hypothèse-là, il n'y a pas assez de problèmes de planification puisque tout est structuré. Par contre, il en va autrement lorsqu'on se retrouve devant un entrepreneur que souvent nous appelons en droit un entrepreneur. Ça veut dire qu'il y a un chiffre d'affaires inférieur et qu'il ne permet pas de se constituer en société commerciale. Dans ce cas-là, finalement, lui-même, il gère une entreprise, mais carrément, il n'est pas structuré. Ce qui fait que c'est à lui qui revient carrément la charge de planification. Et je suis convaincu que la planification annuelle doit s'effectuer par rapport au précédent. C'est-à-dire qu'il faut tirer conclusion des résultats de l'année écoulée pour pouvoir se protéger sur la nouvelle année. Et se protéger, ça veut dire quels ont été les obstacles rencontrés, quelles en ont été les causes, et également, quels sont les risques à courir pour la nouvelle année? Puisque vous savez, entreprendre, c'est risquer. C'est pour cela, d'ailleurs, que les grands économistes disent que l'entrepreneur dort avec les doutes, mais se réveille avec le courage et parfois avec la chance. Et donc, c'est pour ça que je voudrais demander à l'invité de pouvoir opérer ce distinguo-là, selon qu'on se retrouve devant un entrepreneur gérant une société commerciale qui carrément est structurée, si, en conséquence, il ne se pose pas un problème en termes de...
D'accord. Merci beaucoup.
Les
organes sont bien définis, tout est bien structuré. Merci beaucoup, Christian Kassissé. D'accord. Coach Gabriel Lomengo, à vous la parole.
Oui, merci hein, à tous les intervenants pour vos différentes interventions et vos questions. Je voudrais aller Monsieur Gaston Gandou qui a parlé de est-ce que ce que nous voyons les gens font de l'entrepreneuriat ou ils font quoi. Je voudrais éclairer ici quatre concepts clés. Et d'ailleurs Monsieur Christian a parlé de l'entrepreneur. Il y a ce qu'on appelle activité génératrice de revenus. Et la personne qui fait ça est appelée acteur de l'activité génératrice de revenus. C'est, il a un petit capital et il vend devant sa porte, devant sa parcelle pour la survie. Voilà. Donc on appelle ça activité génératrice de revenus.
Ce n'est pas un entrepreneur au
vrai sens du terme. C'est-à-dire, il n'est même pas un commerçant. C'est-à-dire, il fait l'activité génératrice de revenus, il fait pour survivre. Oui. Avec un petit, avec 10 dollars, avec 20 000 francs, il peut faire des galettes, il fait là, parce qu'il n'a rien à faire et il doit survivre, il doit acheter les cahiers, il doit prendre les transports, ça c'est l'activité génératrice de revenus.
Oui.
Et là aussi, il y a une planification qui peut exister à ce niveau-là. Mais ces gens-là, il n'y a pas de formation. Maintenant, nous avons aussi les commerçants. Hein, que nous voyons un peu partout, il y a deux types ou trois types de catégories de commerçants. Il y a des commerçants, c'est lui qui fait l'acte d'acheter et de revendre peut-être un produit fini, n'est-ce pas? C'est un commerçant. Et il y a des commerçants de petit niveau et de grand niveau. Des commerçants font des activités pour ce qui caractérise, c'est le bénéfice. Il veut gagner.
Oui, c'est le bénéfice.
Il vend, évidemment. Il achète, il revend. Pour gagner les bénéfices. Donc il se limite là.
Oui.
Maintenant, l'entrepreneur qui est là, il fait de l'entrepreneuriat, mais il n'a pas assez de moyens. Il peut être une entreprise individuelle, n'est-ce pas? Il n'a pas assez de moyens. Maintenant, quand nous parlons de l'entrepreneur crée de la valeur, l'entrepreneur augmente l'assiette fiscale, l'entrepreneur a une entreprise, a le RCC, a une équipe qui existe. Et cette équipe-là a été constituée sur base des besoins de l'entreprise, n'est-ce pas? Mmh. Alors, il faut vraiment tenir compte de ça. Nous avons des acteurs de l'activité génératrice de revenus, nous avons des commerçants, nous avons des entrepreneurs et nous avons des entrepreneurs, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, c'est très, très important pour que nous puissions
distinguer.
Il y a Maître Charles qui est à Ituri. Comment mettre en place... un système de suivi. Maître Charles, c'est long, mais un peu de mots, on peut vous dire, pour mettre en place un système de suivi pour votre entreprise,
oui.
Mais il faut clarifier ce qu'on veut suivre. Parce que dans une entreprise, par exemple, il faut faire le suivi de quoi? Vente, chiffre d'affaires, il faut les finances, les entrées, production ou service rendu, qualité des services, personnel, projet. C'est-à-dire, on suit ce qui est lié aux objectifs de l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez... quels sont les objectifs de l'entreprise que vous avez mis en place pour maintenant dire, ah, est-ce que j'ai atteint ces objectifs? Et deuxième niveau, il faut maintenant définir les indicateurs de suivi. Les KPI, là. Il faut définir. Un indicateur est un chiffre ou un fait mesurable. Par exemple, nombre de clients par jour, montant vendu par semaine, dépenses quotidiennes, taux de recours ou plaintes, délai de livraison, taux de présence du personnel. C'est-à-dire, les indicateurs doivent être simples, compréhensibles et mesurables et mettre en place des outils de suivi. Donc ça, c'est un peu d'une manière
prenons générale. Par exemple un entrepreneur qui est dans l'agro-business ou qui est dans... Prenons celui qui est dans la production des jus, par exemple, transformation.
Très bien.
Des jus. Comment il peut faire ce suivi-là?
Oui, vous êtes dans la transformation des jus. Maintenant, les suivis, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, mettre en place des indicateurs de suivi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et ça a été prévu pour produire combien de bouteilles de jus? Est-ce que quand vous arrivez à la fin, est-ce que vous avez produit ces bouteilles de jus-là? la clientèle, parce que les chiffres, les plans d'affaires déterminent les clients bien avant. On n'est pas en commerce où quelqu'un vient dans un coin vendre. Nous,
non,
en entrepreneuriat,
tout est bien déterminé.
Nous, raison pour laquelle il y a l'étude du marché.
Oui.
Et d'ailleurs, si on veut même aller loin, il y a l'identification d'opportunités d'affaires à travers les promoteurs. Donc, c'est-à-dire, je vends le jus parce qu'il y a eu un problème, il y a eu un besoin, il y a eu un manque. Comment dans le milieu où je suis.
Et par exemple, dans les écoles, on peut cibler les élèves.
Oui,
secondaires.
Je suis dans un quartier, je suis dans une école où les élèves traversent des avenues pour aller acheter des jus pendant la récréation. Alors, c'est un problème et moi, je viens vendre la solution. Donc, l'entrepreneur ici ne vient pas vendre les jus, il vient vendre la solution là.
Il apporte la solution à un problème.
Pour permettre, et d'ailleurs, ma solution n'est pas seulement sur le plan économique, sur le plan des bénéfices, sur le plan social aussi. Sécuritaire. C'est-à-dire, les enfants qui traversent l'avenue pour aller acheter les jus très loin.
Il y a les risques des accidents.
Très bien. C'est-à-dire, il n'y a pas que la dimension bénéfice économique.
Qui entre en compte.
Il y a aussi la dimension sécuritaire. C'est ça, c'est très important. Et surtout quand l'entrepreneur présente son pitch, c'est très important pour faire ça. Donc, pour quelqu'un qui fait les jus, il doit maintenant se poser des questions. J'avais prévu vendre les jus à combien de clients? Est-ce que je vendis combien? Quel est mon chiffre d'affaires? C'est-à-dire combien je vendis? Combien je vends par mois? Combien je vends par jour? Combien je vends par et quel est le chiffre d'affaires que je fais? Et quel est le bénéfice? Et quelles sont les charges que moi j'ai? Parce qu'il y a des charges.
Il y a des charges personnelles.
Oui,
tout ça.
Il y a des charges qu'il faut. Et il y a aussi, il faut payer à l'État ce que vous
les
devez
taxes,
à l'État,
oui.
Les taxes, tout ça. Donc tout ça, c'est le département de la comptabilité qui le fait. Mais malheureusement, nos entrepreneurs travaillent en solo. Et là, je vais rebondir pour répondre à la question de, je crois que c'est M. Guilla, non, c'est M. Niembo.
Maître Claude, oui, qui dit que notre système fiscal ne permet pas aux entrepreneurs d'émerger. Ça peut d'après lui.
Oui, mais c'est un travail qui doit se faire quand vous avez créé l'entreprise. Ça, c'est une erreur que les entrepreneurs commettent souvent. Vous voulez créer une entreprise, mais il faut comprendre le régime fiscal. Raison pour laquelle il faut contacter des experts en fiscalité pour vous aider. Je veux créer une entreprise. Quel est le régime fiscal que je veux créer pour que je ne puisse pas subir? Je ne puisse pas dire que c'est l'État est en train de
m'asphyxier, tout ça.
Oui, prendre mon argent. Non. C'est-à-dire, un entrepreneur, c'est aussi le patriotisme, la citoyenneté. Je paye l'impôt, je paye la taxe. Pourquoi? Pour augmenter l'assiette fiscale. C'est à travers cet argent-là que l'État construit
les routes,
des écoles. Oui. Donc, j'ai le devoir de payer. Mais avant de faire ça, il faut consulter les experts.
Déjà, quand vous créez votre entreprise, il faut avoir un numéro impôt.
Avant d'arriver là-bas, monsieur Jody, avant d'y arriver, c'est-à-dire vous voulez créer une entreprise. Pourquoi vous voulez créer une entreprise? Il faut consulter des experts pour qu'on vous dise quel est le régime fiscal
que vous pouvez adopter.
D'accord. Qui ne va pas vous étouffer. Donc c'est un peu.
Et puis il dit, maître Claude dit, pourquoi l'idée de travailler seul? D'où vient cette idée? Pourquoi les Congolais aiment toujours évoluer en solo?
Ils
ne peuvent pas s'associer.
Peut-être que si, c'est là où je dis, la science, la recherche scientifique doit jouer son rôle, surtout dans la vie quotidienne des entrepreneurs. C'est très important. Est-ce qu'il y a des recherches faites par les sociologues pour voir pourquoi les Congolais travaillent seuls? C'est un champ qui est là pour les chercheurs congolais. Nous n'avons pas de statistiques là-dessus, nous n'avons pas d'éléments scientifiquement prouvables ou prouvés que nous pouvons dire. Mais on constate tout simplement. Nous constatons qu'à un certain moment, les gens aiment travailler seuls. Mais dans nos formations...
Pourquoi? C'est une crise de confiance, ils n'ont pas
confiance.
C'est
une crise de confiance et c'est aussi l'ego. Il y a une crise de confiance, c'est que la personne a vécu dans sa vie, n'est-ce pas? Et ce qu'il a vu chez les autres. Parce qu'on peut commencer une histoire et on ne termine pas. C'est très dangereux. C'est ça. C'est
les gens ont peur des déceptions.
Oui, ont peur des déceptions. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas trouver de bonnes personnes qui existent en RDC et qui peuvent travailler ensemble? Il y a des gens qui travaillent ensemble. Moi, j'ai une équipe. Je suis aussi entrepreneur, je travaille avec des gens. Mais c'est ça le choix que vous allez faire. Raison pour laquelle on dit, il faut donner le temps au stage. Vous voulez travailler avec une équipe, vous voulez travailler avec quelqu'un, il faut lui donner un temps de stage de 3 mois, de 6 mois.
Pour l'observer.
Est-ce que ça vaut mieux de travailler avec cette personne? Si ça ne va pas, vous cherchez une autre personne. Mais je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui sont honnêtes, qui sont des gens qui sont sérieux en RDC, que nous pouvons travailler. Mais ça demande du temps et il faut leur donner le temps à travers le stage pour que vous puissiez, n'est-ce pas, identifier ces gens-là. Ça, les gens-là existent.
Ils existent.
Ils existent.
D'accord. Et puis, Maître Gaston dit, est-ce qu'on peut planifier des activités en dehors du bilan annuel d'une entreprise?
Si on peut planifier
en dehors du bilan annuel.
Non, c'est-à-dire nous parlons de la planification. Et d'ailleurs, quand nous parlons de la planification, c'est-à-dire il y a des documents que l'entreprise produit à la fin de l'exercice comptable, hein, où nous avons les états financiers obligatoires. Et le bilan est là. Parce que si vous ne faites pas les bilans de ce qui s'est passé, ou si vous ne suivez pas ces documents, comment vous allez être au courant de ce que vous avez fait, ce que vous avez bien travaillé, vous n'avez pas bien travaillé? C'est très compliqué.
Et chaque fois qu'il y a des entrées et des sorties, il faut des pièces comptables.
Des pièces comptables. Et ces pièces ne peuvent pas manquer. N'est-ce pas? Il y a les bilans, il y a les comptes des résultats, il y a les tableaux de flux, des trésoreries. Tous ces documents-là comptent pour que vous puissiez, raison pour laquelle il faut avoir un bon comptable, il faut avoir une très bonne équipe.
Ça, c'est important.
Cette équipe, si vous avez une très bonne équipe et cette équipe-là va vous aider, il y a aussi des documents explicatifs et qui accompagnent les chiffres, il y a aussi le journal comptable, il y a le grand livre, il y a les balances des comptes, tout ça, les comptables maîtrisent ça, n'est-ce pas? Donc il faut avoir une équipe outillée, une équipe entourée des personnes compétentes pour que ces gens-là puissent vous aider.
Vous ne pouvez pas être vous-même chef d'entreprise, vous-même vous êtes comptable,
ça n'existe pas. C'est ça l'idée de travailler en solo.
Oui.
Travailler en solo, ça dit vous faites tout. C'est vrai qu'un entrepreneur, c'est un manager. C'est un gestionnaire. Ici, nous parlons d'un entrepreneur qui est propriétaire de son entreprise et qui gère aussi son entreprise, mais qui ne travaille pas seul. Parce que vous n'êtes pas Dieu sur terre. Vous êtes un être humain. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Oui. Il faut faire appel à d'autres expertises qui existent dans notre pays et travailler. Vous allez dire, bon, coach, moi, je n'ai pas de moyens pour payer ces gens-là. Mais commencez avec 2-3 personnes. Il y a des entreprises qui ont, moi, j'ai commencé avec 2 personnes, n'est-ce pas? Commencez avec 2 ou 3 personnes, n'est-ce pas? Et que vous allez voir, au fur et à mesure que votre chiffre d'affaires augmente, vous pouvez toujours avoir d'autres personnes. Et aussi, une entreprise qui commence doit penser à sa son expansion. Il n'y a pas que le développement de l'entreprise. Il y a l'expansion de l'entreprise. Il y a la pérennisation de l'entreprise. Tout ça, c'est l'équipe qui vous entoure,
qui va vous aider à bien organiser tout ça. Comment planifier une nouvelle année en tant qu'entrepreneur? Nous avons en ligne Georges Kilangalanga depuis Bounia et Patty Maimba nous appelle de Bandundouville. Vous voulez participer à cette émission? Composez le 089 55 98 337.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioOkapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, Parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioOkapi.net, la radio en différé à votre service.
Bien, Georges Kilangalanga, bonjour.
Bonjour au prof.
Vous êtes à Bounia, on vous écoute.
Oh oui. Avant de poser ma question, j'aimerais donner quelques précisions. D'abord, moi-même, je suis coach senior en initiative personnelle et je forme les entrepreneurs sur les processus entrepreneurial et tout ce qui va avec. D'abord, il faut noter que le mois, les semaines, les années sont des temps que Dieu nous donne. Mais si on ne peut pas contrôler les temps, on peut quand même les gérer. Les années, comme ils passent, on peut bien les gérer. Parce qu'on a les mêmes minutes, les mêmes heures pour le pauvre et le riche. Et on peut contrôler les temps grâce à la planification. Et la planification, est guidé par des objectifs qu'on a. Ce ne sont pas les objectifs, c'est pas la planification qui donne les objectifs, mais ce sont des objectifs qui viennent avant la planification. Et lorsqu'on planifie, il y a des étapes dans la planification, notamment il faut planifier les ressources, il faut planifier les activités, et il faut connaître lorsqu'on planifie quelles sont les ressources nécessaires qu'on a besoin, comment les obtenir. Quelles sont les étapes pour atteindre? On planifie par rapport aux objectifs. Quelles sont les échéances, les obstacles, le plan B et l'état d'avancement de cet objectif-là. Alors, monsieur Jody, j'aimerais dire à l'invité une chose. Quand il parle de la planification, il se réfère aux entrepreneurs qui sont établis, qui ont toutes les documentations, le RCCM et les documents légaux. Moi, je voulais lui dire, par exemple, nous avons formé les femmes micro-entrepreneurs dans le cadre du projet Transform de la Banque mondiale, en partenariat avec le gouvernement congolais. Et on a formé les femmes micro-entrepreneurs sous les étapes même de la planification. Alors, c'est ce qui me pousse à lui poser la question, parce qu'il dit, bon, quelles sont les méthodes ou les étapes standards qu'on peut recommander aux entrepreneurs, même s'il écarte un peu les micro-entrepreneurs, quelles sont les étapes standards qu'on peut recommander à toute personne qui fait une activité entrepreneuriale, comment il peut planifier les étapes? Parce que tout le monde n'a pas les RCCM, tout le monde n'a pas le plan d'affaires, tout le monde n'a pas tous les documents qu'il est en train de dire.
Oui, mais d'accord.
C'est quand même important de planifier.
Merci beaucoup.
Moi, j'aimerais terminer par dire aux entrepreneurs que lorsqu'on planifie, il faut avoir l'initiative personnelle. Et dans l'initiative personnelle, il y a ce qu'on appelle les déclenchements individuels, il y a l'orientation vers l'avenir et surtout la persévérance pour surmonter les obstacles. Lorsqu'on planifie, on ne doit pas oublier qu'il y a des obstacles. Et il faut avoir la persévérance pour y arriver.
Merci Georges Kilangalanga depuis Bounia. Patty Maïmba, vous êtes à Bandundouville. Bonjour.
Bonjour, cher Daniel. Allô, cher Daniel.
On vous écoute, Patty.
Est-ce que m'écoutez-vous?
Oui, 5 sur 5.
Cher Daniel, vous m'écoutez?
Oui, on vous capte 5 sur 5, allez-y. Allô? Oh là là, désolé, il est parti. Coach, vous avez la parole.
Oui, monsieur Georges Kilanga de Bounia qui demande sur les étapes. Mmh. Et on était d'ailleurs en train
de dérouler
les étapes. C'est-à-dire, ici on est en train de. Et d'ailleurs, j'ai dit ça bien avant. Il y a des entrepreneurs en phase d'idéation, il y a des entrepreneurs en phase de lancement, création, développement de l'entreprise. Il y a des entrepreneurs qui sont en phase de maturation, croissance, pérennisation, expansion. Maintenant, nous sommes dans un état, nous sommes en RDC, nous avons un gouvernement, nous avons des lois. Il y a la loi sur l'entrepreneuriat en RDC, n'est-ce pas? Qui est entrepreneur, qui ne l'est pas? Et maintenant, l'État ne travaille pas avec d'individus qui ne sont pas reconnus. L'État travaille avec d'individus qui sont reconnus par la loi. Et pour être reconnu par la loi, un entrepreneur, normalement, doit avoir son RCCM. Et ça fait aussi partie de la motivation, je m'excuse, fait partie de la motivation que nous disons aux entrepreneurs. Il ne faut pas travailler sans documents. Parce qu'il y a des opportunités que vous pouvez rater quand vous n'avez pas les documents.
Quand vous n'êtes pas formalisé.
Oui. Et surtout, quand vous êtes formalisé, ce que vous payez à l'État, ça construit l'État. Aussi, si je peux me répéter, ça aide l'État à créer à construire des écoles, des hôpitaux, des routes. N'est-ce pas? Donc, un entrepreneur qui a son RCCM, qui a son document, c'est quelqu'un qui est reconnu et qui est patriote, qui est un citoyen, qui dit.
Qui a son numéro d'identification.
Qui a son numéro. S'il y a un problème, on sait l'identifier. Parce que l'État ne travaille pas avec des individus qui ne sont pas identifiés. Vous devez être identifié. Donc, cela revient à dire quoi? Cela revient à dire, même si vous vous dites entrepreneur, vous travaillez dans l'informel, nous sommes en train de vous encourager, nous sommes en train de vous dire que vous devez être formalisé. Parce que c'est l'État qui gagne et vous gagnez aussi. Donc, nous sommes dans ces principes. Ça, c'est un principe qui est indiscutable. Maintenant, quelles sont les étapes qui, les étapes, nous n'allons pas ici séparer les étapes pour un entrepreneur qui vient de créer, un entrepreneur qui est dans la phase. Non, nous disons les étapes. Et la première étape, nous avons dit, il faut faire le bilan de l'année écoulée. Ça, c'est la première des choses qu'il faut faire, c'est faire
le bilan.
Oui, le bilan. Comment moi, j'ai, et avec le document. Avec les documents comptables, les documents qui sont fournis par les départements de comptabilité. Les documents et le plan d'affaires, c'est que le plan d'affaires a déterminé les objectifs qui étaient là. Est-ce que moi j'ai atteint ces objectifs-là? Est-ce que le chiffre d'affaires est augmenté selon ce que moi je voulais? Oui. Est-ce que le nombre de clients? Parce qu'il faut pas oublier, chaque année il faut augmenter le nombre de clients. Chaque année il faut augmenter, n'est-ce pas, le chiffre d'affaires. Oui. Pour augmenter le chiffre d'affaires, il faut avoir des clients. Mais les clients que moi j'ai commencé l'entreprise avec, c'est parce que j'ai fait l'étude du marché. Maintenant, raison pour laquelle il y a aussi le marketing, il y a la communication, je fidélise les clients qui sont dans mon plan d'affaires et je fais un effort pour gagner encore d'autres clients qui sont sur le marché pour que mon chiffre d'affaires puisse augmenter. Et quand le chiffre d'affaires augmente, il y a la croissance. Quand le chiffre d'affaires augmente, j'ai les bénéfices aussi. Quand le chiffre d'affaires, je peux expandre mes activités dans d'autres villes, dans d'autres provinces. Parce qu'un entrepreneur n'est pas celui-là ou celle-là qui est toujours dans un coin qui fait 20 ans. Il faut vraiment faire un effort pour que vos activités puissent être expandies dans d'autres zones, d'autres coins. C'est ça l'entrepreneuriat. Alors, concernant les étapes, nous avons dû faire le bilan. Vous faites le bilan. Et ici, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Analyse des chiffres d'affaires, des clients, les produits ou services, n'est-ce pas? Et surtout, que nous avons dit, il y a un document qu'on appelle charte de qualité. Comment est-ce que... Il y a aussi ce qu'on appelle le feedback, le retour.
Le retour de la clientèle.
De la clientèle. Il y a toujours un formulaire qu'il faut mettre en place. Est-ce que les services que nous disponibilisons, est-ce que les clients sont contents? Il y a même des entreprises qui créent le groupe WhatsApp, n'est-ce pas? Hein? Il y a les systèmes de bonification pour fidéliser les clients. Très bien, il y a ces systèmes qui existent là. Tout ça, ça doit être comptabilisé. Tout ça, il faut travailler avec des experts. Donc, si je fais le bilan, maintenant, l'autre étape, et maintenant, c'est quoi? C'est pour définir les objectifs maintenant. Et d'ailleurs, quand je fais le bilan, je voulais oublier un point très important.
Lequel?
Quand je fais le bilan, je le fais avec l'analyse SWOT. N'est-ce pas?
C'est quoi l'analyse SWOT?
L'analyse SWOT, c'est une analyse, c'est SWOT, n'est-ce pas? Et en français, c'est FOM. Ça dit, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, quelles sont les opportunités et quelles sont les menaces? N'est-ce pas?
Il faut tout analyser.
Tout analyser. Et les forces. Quelles sont les forces que moi j'ai eues? Par exemple, l'année passée. Là, je suis en termes de bilan. Quelles sont les faiblesses que moi j'ai eues l'année passée? Et quelles sont les opportunités que l'entreprise a présentées ou le marché a présenté, les opportunités présentées par le marché? Et quelles sont les menaces, n'est-ce pas, les barrières? Et tout ça, quand je fais l'analyse du SWOT, ça me permet maintenant d'évaluer comment j'ai fonctionner l'année passée et voir maintenant comment je peux fonctionner. Là où je n'ai pas bien fonctionné, c'est à ce moment-là qu'il faut maintenant définir les objectifs.
Pour l'année qui vient de commencer.
Vous définissez les objectifs.
Oui.
Et maintenant, les objectifs là doivent être objectifs financiers, objectifs commerciaux, objectifs personnels. Et personnel, là, il faut formation et d'autres éléments. Et ces objectifs doivent être SMART.
Cela veut dire quoi?
Et quand on dit SMART, c'est-à-dire des objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle, et temporel, c'est ce qu'on appelle SMART.
Coach, permettez qu'on puisse accueillir Madame Thérèse Maboulaï depuis la ville de Goma. Bonjour Madame Thérèse. Allô? Madame Thérèse, vous êtes à Goma, bonjour. Merci d'ouvrir votre micro. Sûrement votre micro est encore fermé. On ne sait pas vous entendre. Gentil Bassekouamba. Madame, vous êtes là?
Je suis là, vous m'entendez?
Oui, c'est bon maintenant. Allez-y, Madame Thérèse.
Je disais que l'émission est intéressante. Comment planifier une nouvelle année en tant qu'entrepreneur.
Oui.
Alors, pour les entrepreneurs en création et de surcroît les entrepreneurs en situation de handicap, qui ont souvent très peu de chances, très peu d'informations, comment est-ce que vous pouvez les orienter dans cette phase-là de création? Comment planifier cette phase? Comment faire le choix du modèle fiscal d'entreprise?
D'accord, merci Madame Thérèse. Gentil Basse Kouamba de Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jody Daniel Kassama. Bonjour aussi à tous les auditeurs et à Monsieur l'invité.
Quelle est votre question?
J'ai une question, mais il n'y a pas de temps pour moi. Je dois seulement poser 5 questions seulement. Pourquoi est-elle si déterminante pour la croissance et la stabilité d'une entreprise?
Pourquoi?
Deuxième question.
Pardon, c'est quoi la première question? C'est quoi la première question?
Pourquoi est-elle si déterminante pour la croissance et la stabilité d'une entreprise?
Okay,
deuxième question.
Oui.
Quel risque concrètement un entrepreneur qui a 100 000 euros en laissant une vision claire ni plan structuré? Troisième question. Lorsqu'on parle de la planification, par où doit réellement commencer un entrepreneur? Par les objectifs financiers, par les marchés ou par les bilans de l'année écoulée? Quatrième question, justement, quelle importance accordez-vous à l'évaluation de l'année précédente avant de définir les nouvelles orientations? Cinquième question, beaucoup d'entrepreneurs fixent des objectifs ambitieux, mais peinent à les atteindre. Comment définir les objectifs réalistes tout en restant ambitieux? Selon vous, comment les objectifs majeurs, combien des objectifs majeurs une entreprise devrait-elle se fixer pour rester focus et efficace tout au long de l'année?
Merci beaucoup pour toutes ces questions. Coach, il nous reste plus que 2 minutes. Bon, je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Allez-y. Peut-être qu'on va poursuivre la fois prochaine. Vous avez la parole.
Oui, peut-être répondre à Madame Thérèse de Goma qui parle de PVH, hein, personnes vivant avec handicap. Et nous, il y a un terme technique que nous utilisons qu'on appelle de l'handiprenariat.
L'handiprenariat.
Oui, handiprenariat, ça vient de handicap et prenariat, preneur. C'est-à-dire une personne en situation de handicap qui fait de l'entrepreneuriat, il fait l'handiprenariat. Et cette personne est appelée handipreneur. Si c'est une femme, on peut mettre E à la fin. Handipreneur. Donc, on n'a pas encore... C'est vrai qu'on a un ministère qui s'en charge de personnes vivant avec un handicap. Il y a même un fonds qui a été créé à travers Madame la ministre, à travers son ministère.
Un fonds pour soutenir l'entrepreneuriat.
Soutenir les personnes vivant avec handicap qui inclut aussi l'entrepreneuriat.
D'accord.
Donc, mais on n'a pas encore un programme de formation ou un programme d'accompagnement des handipreneurs en RDC.
Ça
n'existe pas. Et peut-être avec ce que l'ANADEC a prévu, parce qu'on est en train de travailler avec le DG de l'ANADEC pour mettre en place le référentiel. Et je crois qu'avec l'ANADEC, avec le référentiel, nous allons tenir compte des handipreneurs.
Coach, il nous reste juste quelques minutes. Donc, qu'est-ce qu'on retient pour terminer? Vous allez certainement revenir pour les autres questions.
On va revenir. Oui. Ce qu'on peut retenir est que la planification fait partie de la vie quotidienne de l'entreprise. Cette planification ne commence pas seulement quand vous êtes entrepreneur opérationnel. Ça commence maintenant dans le processus de création, dans votre projet d'entreprise. Ça commence bien avant et ça continue. Et maintenant, avant de faire cette planification annuelle, il faut vraiment avoir une équipe. Et il faut avoir ces 3 documents dont nous avons parlé. Il faut avoir le plan d'affaires, il faut avoir le manuel des procédures,
la charte de qualité.
C'est très important. Souvent, les entrepreneurs oublient ça.
Oui.
Et c'est que si vous avez ça, vous faites le bilan et après faites les bilans, vous définissez les objectifs. Donc prochainement, nous allons encore revenir pour continuer sur ce thème qui est très intéressant.
Merci beaucoup. Merci coach Gabriel Lomengo, coach en entrepreneuriat et coordonnateur du réseau des coachs professionnels en entrepreneuriat du Congo. Il est également le représentant pays de la FAC, la Fédération africaine de coaching. Coach, bonne année et à la prochaine.
Merci beaucoup monsieur Jody, bonne année à tout le monde. On est ensemble.
Nous allons tout à l'heure suivre les informations et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de votre magazine Okapi Service.